franceinter.fr.
Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Bienvenue. Avant d'aborder avec vous votre élection au sein du GIEC, eh bien nous accueillons comme tous les lundis Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Journaliste pour le site Reporter, le quotidien de l'écologie. On va commencer Hervé par un petit tour de l'actualité climatique. Quelles sont les nouvelles depuis la semaine dernière?
Deux nouvelles importantes. La semaine dernière, les deux coprésidents des négociations sur le climat, Ahmed Djoglaf et Daniel Refsider, ont remis un texte de projet d'accord sur la base desquels les négociateurs vont pouvoir maintenant discuter. Intéressant de ce texte, il est court, 20 pages au lieu de 83 avant, c'est plus geste.
On peut le signaler, oui.
Inconvénient, c'est qu'il semble un petit peu vide, on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre, on ne parle pas de mécanismes de révision des engagements des États, et le passage sur le financement est très creux.
Bon, ils ont fait très court, donc. Hein.
Voilà, court et peut-être un peu vide, donc les négociateurs qui reprennent à Bonn le 19 octobre vont avoir du pain sur la planche, peut-être pour remettre un petit peu
étoffer un peu le texte.
Hein. Vigueur dans ce texte. Deuxième
info
du week-end, c'était à Lima, au Pérou, la réunion des banques de développement et des ministres des finances des principaux pays. Une nouvelle à retenir, les banques de développement ont promis d'allouer 15 milliards de dollars chaque année à partir de 2020. C'est une bonne nouvelle, puisque peut-être vous en rappelez, depuis Copenhague en 2009, les États riches se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020. Donc avec ces 15 milliards qui se rajoutent à 62 milliards existants, on commence à ne pas être trop loin du compte. Il manque encore 23 milliards pour atteindre ces fameux 100 milliards annuels, si vous ne vous y perdez pas. Deux inconvénients, on parle surtout de prêts et pas de dons. Ce qui n'est pas pareil. Et ces financements visent surtout l'atténuation et pas l'adaptation. Et l'adaptation, c'est ce dont ont d'abord besoin les pays pauvres.
Valérie Masson-Delmotte, merci d'abord d'être au téléphone avec nous pour cette Une de la Science. Vous venez d'être élue coprésidente du groupe 1 des experts climatiques du GIEC. Félicitations à vous. Dans quel état d'esprit vous entamez votre mandat?
Alors, je l'entame en me sentant prête pour un travail qui va se construire jusqu'en 2022, puisque c'est le calendrier pour la préparation de ce sixième rapport. Et puis, confiante dans l'équipe qui va travailler avec moi, donc le coprésident chinois Pan Mao Zhao, et puis les collègues donc du Pakistan, d'Indonésie, du Canada, de Norvège, du Maroc, d'Algérie et d'Argentine, qui sont tous d'excellents scientifiques et sur lesquels je pourrais m'appuyer.
Bon, et puis on est très heureux également de signaler quand même la présence d'une femme au sein du GIEC. Donc vous êtes de plus en plus nombreuses.
La présence féminine a fortement augmenté dans ce nouveau bureau, ce qui est, je pense, une très bonne nouvelle.
Ouais. Hervé Kempf, en parlant du GIEC, donc ce seront des experts répartis en trois groupes de travail avec des spécialités bien particulières.
Voilà, donc ce fameux groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, créé en 1988 par l'Organisation mondiale météorologique et le programme des Nations unies pour l'environnement, comprend effectivement trois groupes. Le premier, celui que va maintenant co-présider Valérie Masson-Delmotte avec, il ne faut pas l'oublier, le chinois Pan Mao Zhai. S'intéresse à la science. C'est elle qui produit l'essentiel de ces fameux rapports qui sont à peu près tous les 5 à 6 ans. Le dernier, vous vous en rappelez, a été achevé en novembre 2014. Ça, c'est le premier groupe. Quel est l'état de la science? Qu'est-ce qu'on sait sur le réchauffement? Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Mais il y a deux autres groupes dont on parle moins, mais qui prennent progressivement de l'importance. Le groupe 2, qui étudie l'adaptation. Comment on peut s'adapter au changement climatique. Et puis un groupe 3 qui travaille sur la mitigation. Alors c'est un mot un peu compliqué pour dire simplement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Ces deux derniers groupes sont plutôt à dominante économique.
Alors Valérie Masson-Delmotte, ce groupe 1 dont vous êtes la nouvelle coprésidente, fait le point sur les connaissances climatiques au niveau mondial. Quels sont les domaines où ces connaissances manquent encore aujourd'hui?
Alors en fait, l'idée c'est que les sciences du climat au sens large, elles sont porteuses de solutions. Et en particulier de solutions pour savoir à quoi s'attendre sur les décennies à venir, à l'échelle globale comme à l'échelle régionale. Et sur ces échelles de temps-là, ces échelles d'espace-là, il y a vraiment une marge de progression qui est attendue pour le sixième rapport.
Hervé, Kempf, on peut peut-être signaler une actualité concernant le GIEC. C'est une étude faite par des linguistes, parue la semaine dernière dans la revue Nature Climate Change, et qui conclut que les résumés des travaux du GIEC remis aux décideurs sont incompréhensibles. C'est un peu ça?
Oui, tout à fait. C'est donc une équipe pilotée plus exactement par un scientifique qui travaille en France, à Talence, Ralph Baker-Meyer, qui ont appliqué des analyses linguistiques à l'ensemble des rapports du GIEC. C'est-à-dire, très schématiquement, ils ont utilisé des algorithmes qui vont compter le nombre de mots, évaluer la complexité des mots en se référant à des dictionnaires et évaluer plus exactement la longueur des phrases. Ouais. Et en gros, ça donne le croisement de tous ces paramètres par ces algorithmes appliqués à un texte, donne sa sa complexité ou son intelligibilité. Et par ailleurs, ces chercheurs ont appliqué la même analyse à des textes dans les journaux grand public parlant du changement climatique. Conclusion, depuis 20 ans, les rapports du GIEC et particulièrement les résumés à l'intention des décideurs n'ont cessé d'être plus complexes, plus difficiles à comprendre. Et inversement, la couverture par les journaux de grand public, elle est devenue plus compréhensive, plus simple, mais dans un sens que les auteurs jugent peut-être exagérément catastrophiste.
Alors Valérie Masson-Delmotte, je crois que vous avez été assez sensible à cette étude. Vous allez travailler justement sur ce point en particulier, parce que c'est très important de vulgariser en tout cas les propos des rapports du GIEC. Hein.
En fait, la vraie difficulté, c'est d'associer les principes de travail qui sont la rigueur, la transparence et l'exhaustivité, ce qui donne un caractère très technique à l'évaluation sur la base des publications scientifiques. Et puis d'autre part, se décide la communication. Il y a des pistes de travail, par exemple, de communiquer spécifiquement à la destination de certains types d'utilisateurs. Moi, je pense qu'on peine à être compris, en particulier par les ingénieurs. Le résumé pour les décideurs, il peut être lu par les experts des délégations chargées des négociations climatiques, mais il est très difficile d'accès, même pour les scientifiques d'autres domaines. Et dans la phase de cadrage qui est la nôtre maintenant, hein, de préparation, on a plusieurs pistes. Partir finalement du produit de communication final qu'on veut construire et à partir de là, articuler un rapport, des rapports qui seraient probablement plus courts, plus compacts. Travailler aussi à bien construire la structure de chacun des rapports. Leur articulation, on a un vrai défi d'articuler le passage d'informations entre les trois groupes de travail. Et puis choisir les thématiques des rapports spéciaux qui vont être produits, les deux ou trois rapports spéciaux qui vont être produits avant 2021.
Valérie Masson-Delmotte, la conférence de Paris approche, c'est dans 49 jours. Est-ce que le GIEC a un message clair à porter avant ces négociations ?
Un des résultats majeurs du cinquième rapport pour le groupe 1, c'était le lien entre les émissions cumulées, passées, présentes et futures de gaz à effet de serre et l'ampleur du réchauffement à venir. Pour donner un chiffre simple, si on maintient les émissions mondiales de gaz à effet de serre au niveau de 2014, alors en 22 ans et demi à peu près, on aura émis la totalité des gaz à effet de serre qui conduiront sur le plus long terme à plus de 2 degrés de réchauffement. Et la démarche même du GIEC, c'est-à-dire d'avoir un constat scientifique le plus rigoureux possible, approuvé par les différents gouvernements, ça permet de séparer le constat scientifique d'une part, des négociations climatiques qui sont à l'œuvre maintenant et dont on espère les voir aboutir à Paris à la fin de l'année.
Ah ben oui, évidemment, hein, les attentes sont très fortes dans ce domaine. Le prochain rapport du GIEC, donc, c'est pour 2018. Comment très rapidement vous préparez un rapport quand on est président d'un des groupes de travail, justement, Valérie Masson-Delmotte ?
Alors, il y a toute une phase de consultation par rapport aux attentes des utilisateurs, par rapport aux attentes de la communauté scientifique, pour identifier là où on aura une matière scientifique suffisamment foisonnante pour permettre une évaluation critique. Donc là où on a des choses émergentes, là où on a éventuellement des controverses, là où il va falloir justement affiner l'évaluation pour le prochain rapport. Et ça, cette phase-là, elle va se décliner tout au long de l'année à venir.
Avant de vous dire au revoir, on peut peut-être citer l'ouverture d'une exposition, cette fois pour le grand public, à la Cité des Sciences.
Ça ouvre aujourd'hui, hein, c'est ça, je crois, Valérie Masson-Delmotte.
Oui, tout à fait. On inaugure à la fin de cette journée une exposition dans l'espace actualité d'Univers Sciences qui s'appelle Climat 360 degrés et qui, justement, vise à mettre à disposition d'un public curieux les éléments scientifiques et puis aussi des regards croisés ou des regards de lycéens sur ces enjeux climat.
Voilà, et c'est jusqu'au 20 mars prochain, ça démarre aujourd'hui donc à la Cité des Sciences à Paris. Hervé, on rappelle également l'adresse de reporter, il faut rajouter un petit point net derrière pour avoir toute l'actualité climatique et on se retrouvera donc lundi prochain comme tous les lundis dorénavant jusqu'à la conférence du GIEC. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir, à bientôt. Et Axel, on n'oublie pas le podcast.
Avant de se retrouver demain, on podcast la une de la science.
Franceinter.fr. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un nouveau squelette africain révèle d'importants flux migratoires du Moyen-Orient vers l'Afrique chez Homo sapiens. Il s'appelle Mota. Il a 4500 ans. Et c'est un des rares squelettes anciens d'Afrique que les paléoanthropologues aient pu étudier à ce jour. L'analyse de son ADN fait de lui un chasseur-cueilleur, capable de digérer le lait. Mais plus intéressant encore, Mota dévoile qu'une grande part du génome des Africains de cette époque provient des populations moyen-orientales et que les flux migratoires depuis l'Eurasie vers l'Afrique étaient beaucoup plus importants que ce que l'on pensait et surtout dans les deux sens. Pourquoi les éléphants sont-ils peu touchés par le cancer? Les grands animaux en général sont moins sujets à cette maladie que les petits. Pourtant, leur nombre de cellules et leur taille devraient les exposer davantage aux mutations, donc au cancer. Un élément de réponse à ce paradoxe que les chercheurs appellent le paradoxe de Peto vient d'être publié. L'éléphant disposerait dans son ADN d'un nombre très important de gènes lui permettant de lutter contre le cancer. Une découverte qui pourrait mener à terme vers un médicament capable de recréer cette résistance chez l'homme. Et puis pour terminer, les oiseaux des villes, victimes de nos déchets alimentaires, selon une étude réalisée par le CNRS, la nourriture que nous jetons trop grasse, trop sucrée, entraîne le décès d'un grand nombre d'oiseaux des villes. Plusieurs mesures prouvent que les moineaux urbains sont moins grands, plus gras que leurs amis des champs. Cette malnutrition provoquerait également des problèmes de survie, de développement des oisillons. En France, le moineau urbain est classé depuis 2009 dans les espèces menacées.